Merci, à tout à l'heure, Jean-Baptiste Marot.
Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue si vous nous rejoignez, l'antenne vous appartient. Dans un instant, ce sont vos questions à la rédaction d'RFI. C'est votre rendez-vous privilégié avec les journalistes, nos experts ici à Paris, nos envoyés spéciaux, nos correspondants à travers le monde. C'est l'occasion, vous le savez, de nous poser toutes vos questions afin de mieux comprendre l'actualité. Vous connaissez le principe, n'attendez pas le début de l'émission pour nous contacter. Vous pouvez le faire d'ailleurs tout au long de la journée. On a besoin de vos questions en amont pour contacter nos experts ici au sein de la rédaction. Un seul numéro de téléphone, 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous nous appelez de France. J'insiste, toutes vos questions sont les bienvenues, tous les sujets nous intéressent, donc surtout n'hésitez pas. Et puis dans 30 minutes, nous lancerons le débat sur le poids des croyances traditionnelles. On en parle ce matin à l'occasion de la béatification de Bénédicte d'Assois. Il était sud-africain. Il a été assassiné il y a 15 ans pour avoir dénoncé la sorcellerie et la superstition. Il avait osé remettre en cause ses croyances traditionnelles, des rituels qui sont encore très ancrés dans certaines régions d'Afrique du Sud, mais aussi sur l'ensemble du continent africain. Alors comment expliquer la persistance de ces croyances? Quel est leur poids dans la vie quotidienne? Vos témoignages et vos réactions au 33 9 693 693 70 et vous continuez à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je lirai quelques-unes de vos réactions tout à l'heure pour alimenter la réflexion. Vos questions, plusieurs questions ce matin sur la Syrie et notamment sur l'intervention militaire de la France. Séverin, bonjour.
Ah, bonjour, bonjour RFI.
Vous nous appelez de Ouagadougou.
Bonjour à tous les journalistes de Radio Mondiale.
Vous êtes au Burkina, on vous écoute.
Oui, Burkina Faso.
On vous écoute.
La France a annoncé que ses forces aériennes mèneront des attaques contre l'État islamique en Syrie.
Oui.
Dans les semaines à venir. Qu'est-ce qui explique ce changement de position de la France vis-à-vis de Bachar Assad?
Alors, c'est vrai que jusqu'à présent, la France s'était interdit d'intervenir militairement en Syrie. La France qui partait du principe que faire la guerre à l'organisation de l'État islamique reviendrait d'une certaine façon à rendre service à Bachar el-Assad. Olivier Four, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, Olivier. Vous êtes spécialiste des questions militaires à RFI. Vous étiez d'ailleurs hier aux universités d'été de la Défense à Strasbourg. Il a été question, évidemment, de cette intervention militaire de la France en Syrie. Comment expliquer le revirement de François Hollande?
Vous l'avez entendu ces derniers jours. Jour à l'Elysée, comme au Quai d'Orsay et à la Défense, on ne cesse de dire et de répéter que le contexte a changé, que le régime de Bachar al-Assad est bien moins fort qu'il y a 2 ans, quand la France s'apprêtait à lancer des bombardements contre les forces syriennes, après les attaques chimiques contre la population civile syrienne. Donc on nous dit que le contexte a changé, qu'il y a une évolution sur le terrain. La France évoque aussi le problème des migrants, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines, on en parle encore tous les jours. Même si les réfugiés de Syrie et d'Irak n'ont pas attendu septembre 2015 pour quitter leur pays en guerre. Et puis enfin, il y a le terrorisme qui a frappé en début d'année sur le sol français et qui frappera encore, avec la certitude des services de renseignement français que la Syrie sert de base arrière à des éléments djihadistes formés en Syrie, téléguidés depuis le sol syrien pour commettre des attentats en France. Alors, il y a eu plusieurs cas qui sont restés célèbres. Le cas de Medine Mouche, qui avait été repéré en Syrie avant de passer à l'action en Belgique, puis d'être interpellé en France. Probablement aussi le cas plus récemment d'Ayoub El-Razani, avec son projet d'attentat du Thalys.
Dans le train, oui.
Voilà, et qui était, semble-t-il, en lien avec la Syrie ou passé par la Syrie. Ou encore le cas de Sigar Medralam et son projet avorté d'attaque contre une église en région parisienne. Et puis il y a un autre argument aussi, c'est de dire qu'il y a de nouveaux acteurs qui ont fait leur apparition dans la région ou qui ont eux aussi changé d'objectif. La Turquie, par exemple, a changé de position cet été. Ou encore l'émergence d'un axe russo-iranien. On en a beaucoup parlé, notamment pendant ces universités d'été de la Défense. Bref, la France ne pouvait pas se permettre, d'une certaine manière, de rester hors-jeu en Syrie. Elle va donc collecter du renseignement de manière autonome avant de mener des frappes, mais elle aura donc un renseignement, on va dire, 100% français, même s'il y a toujours du renseignement qui vient des étrangers et qui vient des alliés américains, mais elle aura du renseignement autonome pour choisir ses propres cibles, c'est ce que disent les militaires.
Et depuis une semaine, des rafales effectuent des missions de reconnaissance pour recueillir justement ces fameux renseignements. Il y aura des frappes, ça a été confirmé il y a quelques heures par le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, qui déclarait que les premières frappes aériennes françaises seront effectuées dans les prochaines semaines. Séverin, vous avez une autre question?
Non, oui. La deuxième question, est-ce que les forces françaises vont-elles collaborer étroitement avec les forces syriennes?
Alors, la question est intéressante.
La question se pose, bien sûr. Ouais. La question de la coordination, la question de la collaboration, la question ne serait-ce que de pour éviter un abordage aérien en plein ciel de la Syrie, parce qu'il y a encore des avions de combat syriens qui volent tous les jours, même s'ils sont de moins en moins nombreux. Alors, il n'y a pas de coordination directe, nous dit-on, c'est-à-dire qu'en fait l'action de la France ne sera pas là pour soutenir les forces du régime de Bachar al-Assad au sol, à la différence de ce qui se fait en Irak, où les forces françaises et les forces coalisées soutiennent les forces du régime irakien, voire les forces kurdes. Donc officiellement, pas de coordination, et c'est facile, finalement, l'argument est de dire on peut pas se coordonner, puisque de toute façon, on a fermé l'ambassade de France à Damas en 2012, mais les Français reconnaissent qu'il y aura une coordination avec les États-Unis, avec la coalition, et on sait que la coalition, si elle se coordonne pas directement, par la Bachar. Voilà.
Ouais. Donc il y aura forcément une coordination par le biais notamment des Américains.
Oui, alors il y a cet aspect-là, tout simplement parce qu'en fait, on parlait tout à l'heure d'un grand nombre d'acteurs au-dessus de la région. Ce sont les Américains et les coalisés qui font la surveillance au-dessus de l'espace aérien, par exemple, et donc qui ont une image assez claire de ce qui s'y passe. Donc il faudra à peu près déclarer aux Américains quand on ira, quand les Français iront frapper une cible, par exemple.
Autre question, toujours sur ce dossier. Yaya, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes au Mali, on vous écoute.
Bonjour. Bonjour, je suis au Mali. Alors, j'aimerais savoir quels sont les résultats des bombardements aériens de l'Occident venus depuis déjà 10 ans en Irak.
Alors, c'est vrai que ça fait quasiment un an, jour pour jour, que la coalition internationale mène des frappes aériennes en Irak contre l'organisation de l'État islamique. Des milliers de frappes aériennes.
Oui, des milliers de frappes aériennes. En fait, pour la France, ça a commencé le 19 septembre. Pour les Américains et les Anglais, de mémoire, ça avait commencé un peu plus tôt, à l'été 2014, donc l'an dernier. Alors, côté français, on annonce 10 000 heures de vol depuis le 19 septembre 2014. Un millier de missions, et ça c'est intéressant à mettre en rapport, un millier de missions et 215 frappes. Donc ça veut dire en fait que les trois quarts des missions, c'est des missions de reconnaissance, donc de la collecte du renseignement et des frappes, ou des frappes d'opportunité quand quelque chose se présente et que ça peut présenter un intérêt, ou des frappes destinées à soutenir, on disait tout à l'heure, les forces irakiennes ou les forces sur le terrain, si elles sont accrochées par exemple, ou des choses un peu plus planifiées, la destruction d'une position, d'une base arrière de Daesh, par exemple.
Donc un peu plus de 200 frappes françaises, ça représente quoi? 5% de la totalité des frappes sur l'Irak?
5-6% des frappes sur l'Irak, et c'est beaucoup moins, évidemment, si on a un rapport Irak-Syrie. Mais la France le rappelle, pour ce qui est de la Syrie, elle ne participera pas aux frappes coalisées planifiées. C'est-à-dire qu'en fait, d'une certaine manière, sans vouloir trop schématiser, elle mènera un peu sa propre guerre. Et très certainement, une guerre qui sera plus axée vers l'antiterrorisme que réellement vers la réduction des capacités militaires sur le terrain de Daesh face au régime de Bachar al-Assad.
Et les frappes françaises permettent de changer la donne sur le terrain? Alors, on n'a pas vraiment l'impression, quand on voit que l'organisation de l'État islamique gagne chaque semaine un peu plus de terrain.
Alors, c'est vrai et c'est faux. C'est-à-dire qu'en fait, ils communiquent beaucoup, donc ils médiatisent beaucoup. Mais quand on regarde tactiquement sur le terrain ce qui s'est passé depuis l'an dernier, et c'était l'objectif premier, là je parle de l'Irak, cette espèce de dynamique de victoire de Daesh a été enrayée. C'est-à-dire que quand ils sont rentrés dans Mossoul, on voyait déjà le drapeau noir de Daesh flotter sur Bagdad. C'est pas arrivé. Donc ça a un peu gelé les positions des uns et des autres. Ça c'est vrai. Après, ce qui se passe, c'est que donc ça a un peu enrayé la progression. Après, ce qui se passe, c'est que très très vite, les combattants de l'organisation de l'État islamique se sont adaptés. Ils connaissent parfaitement les règles d'engagement des forces occidentales. Donc, personne s'en cache, ils arrivent à se dissimuler dans des lieux publics, dans des écoles, dans des mosquées, dans des hôpitaux. Ils ont très très vite camouflé leur matériel, et donc quelque part, ça a pas non plus réduit à néant leur capacité. Ils poursuivent leurs opérations, leur propagande, mais ils sont plus réellement, enfin en tout cas c'est ce qu'on peut constater quand on regarde un petit peu, ils sont plus réellement en mesure de mener de grandes offensives avec ce qu'on voit d'ailleurs très souvent sur leurs images de propagande, avec des chars, de l'artillerie et des blindés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, immédiatement, ils seraient repérés et ils seraient très certainement attaqués par la coalition. Donc ça crée un changement de ce point de vue-là.
Merci Olivier Four, spécialiste des questions militaires à RFI. D'autres questions à la rédaction, vous nous appelez 33 9 693 693 70. On va continuer à parler de la Syrie et du rôle de la Russie. Théophile, bonjour.
Oui, bonjour à toute l'équipe RFI et à tous les auditeurs de la radio mondiale.
Vous êtes au Burundi, vous nous appelez de la capitale à Bujumbura, on vous écoute.
Oui, comme vous le savez, monsieur Rouhan, aujourd'hui les pays occidentaux, notamment les États-Unis, sont inquiets de la présence militaire des Russes en Syrie. Alors, qu'est-ce que cela peut changer sur le plan militaire et opérationnel ? Est-ce qu'une alliance avec la Russie était possible pour combattre l'État islamique ?
Ah, une alliance entre les Occidentaux et la Russie. Bonne question, mais c'est vrai que depuis quelques jours, les États-Unis accusent la Russie de renforcer sa présence militaire en Syrie, et notamment dans la province de Latakié. Latakié, c'est à l'ouest du pays, dans le fief du régime de Bachar el-Assad. Bonjour Muriel Pomponne.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct de Moscou. Vous êtes la correspondante d'RFI en Russie. Avant de répondre à Théophile sur l'impact de la présence militaire russe, faut quand même que vous nous expliquiez en quelques mots ce qu'il en est aujourd'hui de cette présence militaire russe en Syrie.
Mais écoutez, tout d'abord, il y a des instructeurs, des ingénieurs, des conseillers en Syrie, ça les Russes ne le cachent pas, ils le disent ouvertement, des instructeurs qui sont là, disent-ils, pour aider l'armée syrienne à utiliser notamment les armes livrées par les Russes. Là non plus, les Russes le disent officiellement, ils livrent des armes à la Syrie en conformité avec les contrats signés avec le gouvernement légal de la Syrie. Ils insistent toujours sur ce point. Alors d'après la presse russe, on sait qu'il y aurait des blindés, des armes légères, des lance-grenades, et puis des véhicules. Les Américains disent également que les Russes ont livré des chars T-90, très exactement 7 chars T-90, qui sont des chars modernes. Les Syriens ont également payé des missiles anti-aériens S-300, mais finalement les Russes ne les ont pas livrés. Et puis par ailleurs, d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les Russes seraient donc en train d'allonger la piste de l'aéroport dans la région de Latakié, dont vous parliez, afin de pouvoir accueillir des gros porteurs. Après, il y a la question des hommes. Alors, ce qui n'est pas officiel, c'est qu'il y a très certainement des hommes des services secrets, du renseignement, et des informations font également état d'envoi de militaires qui participeraient au combat. Mais alors là, il faut rester très prudent. On n'en a pour l'instant pas de preuves. Et un engagement russe en Syrie, comme il y a eu lieu probablement dans le Donbass, comme tout le monde le sait, ce serait effectivement très très mal perçu par l'opinion publique russe.
Et à quoi doivent servir tous ces hommes et tout ce matériel déployé en Syrie ?
Alors la version officielle, c'est donc qu'il s'agit de lutter contre le groupe État islamique, contre le terrorisme, et que le meilleur rempart contre le terrorisme, c'est l'armée syrienne. Donc les Russes aident l'armée syrienne. Les blindés peuvent effectivement aider les Syriens, dont l'armée a perdu beaucoup d'éléments, et en armes et en matériel, et aussi en personnes, au cours de la guerre civile. Mais pour beaucoup d'observateurs, l'engagement russe servirait plutôt à défendre le régime de Bachar el-Assad, régime qui est en difficulté, plutôt qu'à lutter finalement contre l'État islamique. Et surtout, donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les Russes n'ont pas cherché à cacher cette montée en puissance. Et donc, on pourrait y voir un signal politique plutôt qu'un engagement militaire avec des objectifs opérationnels. Une façon en fait de dire au monde entier qu'une solution politique en Syrie...
Ah, on a perdu Muriel Pomponne en direct de Moscou. On va essayer de la retrouver si c'est possible peut-être sur notre réseau secours, notre ligne de secours. Muriel ?
à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations Unies. Je signale que c'est la première fois depuis 10 ans que Poutine va aller à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York.
Voilà. Alors Théophile nous demandait également si une alliance entre les Occidentaux et la Russie était possible pour lutter contre l'État islamique. On dit que c'est le souhait de Vladimir Poutine.
Alors pour l'instant, ça semble peu probable, hein, parce que les Occidentaux estiment que la présence de Bachar el-Assad est une des causes de la crise et que la solution politique doit comprendre son départ. La Russie, elle a une autre stratégie. Elle pense qu'il faut lutter contre le groupe État islamique avec l'armée syrienne et envisager ensuite une ouverture politique. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle elle a organisé des rencontres avec l'opposition à Moscou, mais ces rencontres n'ont vraiment rien donné. Et puis pour Moscou, une grande coalition comprendrait non seulement l'armée syrienne, mais aussi l'Iran, qui soutient actuellement massivement le régime syrien. Pour l'instant, il est absolument impensable que l'Iran et les États-Unis se retrouvent côte à côte dans la même coalition. Toutefois, je vous le disais tout à l'heure, la Russie n'a pas livré les missiles anti-aériens S-300 à la Syrie, sans doute pour éviter tout risque d'accident contre les avions américains et français qui effectuent des observations et des frappes contre Daesh. Donc les Russes font quand même attention à ce qu'ils font. Mais les relations entre la Russie et l'Occident, précisément, vont beaucoup dépendre, je vous le disais, des discussions qui auront lieu aux Nations Unies.
En tout cas, hier, Vladimir Poutine a rappelé que la Russie continuera à soutenir militairement Bachar el-Assad, dont le rôle, a-t-il dit, est indispensable pour lutter contre les djihadistes de l'État islamique. Merci Muriel Pomponne, bonne journée à Moscou. Merci à Théophile qui nous appelait de Bujumbura. Pacôme, bonjour.
Bonjour Juan.
Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous nous appelez car vous avez des questions sur la béatification dimanche dernier de Bénédicte Dachois en Afrique du Sud.
Oui, Bénédicte Dachois, noir sud-africain, a été béatifié le dimanche dernier par le pape François pour avoir dénoncé des pratiques qui sont contraires à ses convictions religieuses catholiques. Voilà, je voudrais savoir qui est Bénédicte Dachois et quel est son rôle au sein de sa communauté.
Alors, Bénédicte Dachois qui, effectivement, dénonçait certaines croyances traditionnelles. Lisa Fabian, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'une des correspondantes d'RFI en Afrique du Sud. Qui était-il et quel rôle jouait-il au sein de sa communauté? On disait qu'il était populaire, qu'il était respecté dans sa communauté.
Oui, d'après ceux qui l'ont connu, Bénédicte Dachois était un homme généreux et très investi dans la vie des villages du district de Toyandou où il vivait. Père de 8 enfants, enseignant et directeur de l'école locale, l'éducation était évidemment l'une de ses priorités. Selon son ami proche Chris Papouli, avec qui j'ai parlé dimanche, Bénédicte Dachois accueillait par exemple régulièrement les élèves en difficulté dans sa propre maison pour leur donner un repas chaud ou leur offrir des cours de soutien. Il s'occupait également des personnes âgées dans le besoin et n'hésitez pas à utiliser sa voiture personnelle pour emmener les malades à la clinique à plusieurs kilomètres de là.
Et c'était aussi un homme très pieux, il s'est d'ailleurs converti au catholicisme à l'âge de 17 ans, un homme qui a toujours contesté, dénoncé certaines croyances et certaines superstitions populaires.
Effectivement, toujours selon son ami proche Chris Papouli, tout ce qu'il faisait commençait par une prière. Bénédicte Dachois a également aidé à bâtir l'église du village avant même de commencer la construction de sa propre maison. Mais surtout, d'après l'enquête de l'église catholique, Bénédicte Dachois n'a jamais renié sa foi, même à l'heure de sa mort. Lorsque des villageois lui ont tendu une embuscade et l'ont attaqué le 2 février 1990 parce qu'il avait refusé de consulter un guérisseur traditionnel avec eux, Bénédicte Dachois n'a pas cessé de prier, même lorsque ses assaillants l'ont lapidé et battu à mort.
Ouais. Vous avez une autre question, Pacôme.
Est-ce que Bénédicte Dachois est le premier noir africain à être béatifié?
Ah, bonne question. Il est le premier sud-africain béatifié par l'Église catholique. Est-il pour autant le premier africain, Lisa?
Alors, Bénédicte Dachois est le premier martyr d'Afrique australe, mais pas d'Afrique. Le continent compte en fait plusieurs saints et martyrs, mais surtout en Afrique du Nord, en Tunisie, en Égypte, en Libye notamment, où de nombreuses béatifications ont eu lieu dans les premiers siècles de la chrétienté, du temps de l'Empire romain. En Afrique subsaharienne, en revanche, les béatifications sont plus récentes et bien plus rares, mais on peut citer par exemple le cas d'Isidore Bakanja, un jeune Congolais mort en 1909 à l'âge de 24 34 ans. Il avait été battu à mort par son patron qui ne supportait pas qu'il enseigne le catéchisme à ses compagnons. Il a été béatifié en 1994 par Jean-Paul II. On peut également citer les martyrs de l'Ouganda. Cette fois, nous sommes en 1886. L'évangélisation du pays vient à peine de commencer, mais très vite, le roi Mwanga interdit à ses sujets de se convertir avant d'ordonner des exécutions massives. Le 3 juin,
plusieurs béatifications déjà sur le continent africain. Merci Lisa, je vous interromps, on est obligé de rendre l'antenne pour...